Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. Donc c'est le groupe Amnesty International d'Évreux pour la seconde et dernière émission du mois de janvier 2019. Et pour l'animer ce soir, à côté de moi, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Mina aussi.
Bonsoir et je tenais à vous souhaiter mes bons voeux pour cette année avec cette petite phrase de ma création. Mettons dans nos vies du blues et de la poésie et tout devient humain et neuf en 2019.
C'est
en
joli.
Plus, t'es poète.
C'est joli.
Je m'appelle là, Plume Mina. D'or.
Mais Plume d'or, t'avais jusqu'à la fin du mois pour faire tes
voilà.
voeux.
Il était temps.
Donc voilà. Mina nous a gratifié, elle nous a fait la surprise, on n'était pas au courant du tout, personne.
Elle a fait ses petits effets.
Voilà, parce qu'on s'est réunis avant pour préparer l'émission, mais elle nous l'avait pas dit. Donc, elle nous a gratifié d'une petite phrase poétique, c'est sympa. Et puis, il y a Vincent qui est encore ce soir gentiment, nous assure la technique.
Bonsoir.
Donc voilà, droits humains et Amnesty International et la situation dans différents pays. On va faire une large part ce soir à la dégradation des droits humains en France. Ça me faisait penser d'ailleurs, quand je venais tout à l'heure en voiture ici au studio, je pensais que quand on a commencé à faire les émissions d'Amnesty sur l'antenne de Principe Actif, donc ça remonte il y a quelques années, on parlait beaucoup moins de la dégradation des droits humains en France. On était encore à une époque où, bon, même si tout n'allait pas bien, parce que tout ne va jamais bien, mais malgré tout, il y avait moins de sujets de s'alerter et de s'inquiéter par rapport à ce qui nous attend, y compris dans un pays comme la France.
Et donc, et justement, oui. Moi aussi, cet après-midi, quand j'étais chez moi, j'étais de repos, j'ai pensé à une phrase de Tracy Chapman, en lisant tous les articles, tous les événements. « Don't you know they're talking about a revolution? You better run, 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 run. » Ne sais-tu pas? Il parlait d'une révolution. Tu ferais mieux de courir, courir, courir.
Oui. Décidément, tu es très inspiré ce soir. Donc voilà, c'était la deuxième surprise. C'était la deuxième surprise de Mina. Pour parler de la dégradation des droits humains en France, comme je vous disais, je vais commencer par vous lire deux communiqués d'Amnesty qui sont parus hier. Et c'est à propos du droit de manifester. Bon, actuellement, il y a une loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale, qui est prévue pour encadrer le droit de manifester suite au débordement des manifestations, entre autres des Gilets jaunes, depuis quelques mois. Ça, on vous en a déjà parlé aux émissions, dont la dernière, et puis aux émissions précédentes. Mais en fait, on s'aperçoit que l'État français et le gouvernement français se saisit de ces incidents pour encadrer de façon encore plus autoritaire le droit de manifester, et c'est ce qui est Amnesty ne nous plaît absolument pas. Donc voilà ce que dit Amnesty sur ses communiqués. En France, une proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs est discutée à l'Assemblée nationale. Si elle était adoptée, cette loi aurait de graves conséquences sur le droit de manifester pacifiquement en France. Tout d'abord, une telle loi ne répondrait pas aux violences commises par les individus dans les manifestations. Elle donnerait en revanche tout loisir à un pouvoir politique qui serait peu soucieux des droits humains de priver arbitrairement des milliers de citoyens de manifester. Elle permettrait aux autorités de poursuivre arbitrairement de nombreux manifestants et aurait un effet dissuasif sur la participation des citoyens à des manifestations. La proposition de loi introduit la possibilité pour les préfets d'interdire à des personnes de manifester sans aucun contrôle par un juge judiciaire, avec une possible obligation de pointage sous peine de prison et d'amende. Elle prévoit aussi que ces interdictions administratives s'appliqueront à quiconque appartiendrait à un groupe ou entretiendrait des relations régulières avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission d'actes délictueux.
Cela n'est rien. Excuse-moi, mais oui. Est-ce que ça te rappelle pas un petit peu l'état d'urgence, par exemple,
tout à fait.
Et toutes les dérives.
Tout à fait.
Oh, ça les a bien inspirés quand même.
Ben voilà. Et Amnesty d'ailleurs fait une allusion, je pense que c'est à la fin du communiqué, par rapport à ces dérives-là, qui font ensuite à d'autres dérives. Rien n'arrive jamais par hasard, mais c'est tout à fait exact. Cela n'est rien d'autre qu'une présomption de culpabilité par association. Il serait ainsi possible pour le préfet d'interdire à une personne de manifester simplement sur la base de ses fréquentations jugées mauvaises par les services de renseignement ou le pouvoir exécutif. Alors ça aussi, petit commentaire personnel, effectivement d'en arriver à, d'abord à ce qu'un préfet ait un pouvoir de justice, bon ça c'est parfaitement inadmissible, parce que le préfet c'est le pouvoir exécutif, c'est pas le pouvoir judiciaire. Et deuxièmement...
Mais ça, encore, c'est l'état d'urgence.
Bien sûr, tout à fait. Non, mais ça, c'est,
tout à fait.
Oui, c'est exactement la conséquence de choses qu'on a déjà laissé passer avant. Donc, là, on arrive effectivement à l'inversement des normes de justice, puisque jusqu'à présent, dans le droit international, et c'est toujours le cas, la présomption d'innocence prévaut par rapport à quelqu'un qui est soupçonné d'un délit, y compris d'un délit qu'il a pu commettre à une autre manifestation, ça arrive. Mais là, c'est la probabilité de culpabilité à l'avance qui est retenue. Oui. C'est-à-dire, en fait, on soupçonne les gens d'être coupables, alors que normalement, c'est l'innocence qui prévaut. Donc là, effectivement, c'est une inversion des normes, on pourrait dire. Et une inversion des normes, en termes de respect des droits, c'est toujours très grave.
C'est ce qui s'est pratiqué là ces dernières semaines. Hein. Voilà. Il y a des manifestants qui ont été arrêtés avant même qu'ils aient manifesté.
C'est ça. Alors, Amnesty continue en précisant, comme on l'a dit, les préfets pourront ainsi aussi interdire à une personne de manifester lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Voilà, je répète bien la phrase, hein. Si on a des raisons, si l'administration et la préfecture a des raisons de penser que son comportement constitue une menace, c'est exactement l'inversion de la preuve. Cette formulation vague et floue est la même que celle utilisée pour les personnes suspectées de terrorisme dans la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, dont Claire Lise vous a parlé, qui a intégré les principales dispositions de l'état d'urgence en matière de lutte antiterroriste. Comme nous l'avions déjà dénoncé, une telle notion est contraire au principe de droit fondamental de sécurité juridique. En ne permettant pas aux citoyens de connaître les règles qui sanctionnent leur comportement et d'ajuster leurs choix en conséquence, pour ne pas être punie injustement, elle ouvre la voie à l'arbitraire. Alors le communiqué continue de la façon suivante. En audition devant la commission des lois le 22 janvier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déclaré que cela ne visait que quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. Quelques centaines de personnes qui seraient donc présumées coupables. Avec des critères aussi vagues et flous pourtant, ce sont des milliers de personnes qui pourraient potentiellement être visées par de telles mesures, loin du regard de la justice. Entre novembre 2015 et 2017, les pouvoirs d'exception de l'état d'urgence permettaient déjà au préfet d'interdire à des personnes de manifester sans contrôle judiciaire. Plus de 700 interdictions individuelles avaient ainsi été prises. Comme nous l'avions constaté à l'époque, ces interdictions n'avaient en rien empêché les violences importantes commises par certains individus pendant les manifestations contre le projet de loi Travail, mais avaient privé arbitrairement des centaines de personnes de leur droit de manifester pacifiquement. Au moment de mettre un terme à l'état d'urgence, le gouvernement d'Édouard Philippe avait eu la sagesse de refuser d'intégrer dans ce droit commun cette atteinte fondamentale au droit de manifester. Donc là, effectivement, ça avait été retiré, mais là, ils nous le remettent au goût du jour. Néanmoins, moins de 15 mois plus tard, le même gouvernement assume sans complexe d'attaquer délibérément ce droit, alors que des centaines de milliers de personnes ont manifesté ces deux derniers mois, pour la plupart pacifiquement. Cette logique de suspicion est déjà entrée dans le droit commun pour les personnes suspectées de relations avec d'autres personnes, elles-mêmes suspectées de sympathie avec le terrorisme. Là encore, c'est la présomption de culpabilité, hein. Nous avons longuement documenté dans un rapport récent les conséquences dramatiques vécues par des centaines de personnes visées. Là, je vous renvoie sur le site en vous fiant ce rapport. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était publiquement engagé auprès de notre organisation à garantir le droit de manifester pacifiquement. Si une telle loi venait à être adoptée par le Parlement, non seulement cela irait à l'encontre de ses engagements, mais cela signifierait un grave recul en France d'une liberté fondamentale. Donc voilà, on en est là, effectivement, en France, on voit les libertés fondamentales commencer à sérieusement reculer. Et pour terminer sur ce petit sujet, mais qui était fondamentalement important, Amnesty continue avec un deuxième communiqué par rapport aussi à ce projet de loi qui dit « La proposition de loi sur le droit de manifester actuellement débattue à l'Assemblée nationale, donc comme on vient de vous le dire, propose notamment de pénaliser d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende le fait de se couvrir totalement ou partiellement le visage lors d'une manifestation. Dans le contexte actuel du recours disproportionné à la force, ça on en avait parlé au précédent des émissions, et des stratégies, de maintien de l'ordre, protéger son visage et particulièrement ses yeux, des gaz et projectiles est non seulement légitime, mais souvent nécessaire. D'après les recoupements crédibles effectués par plusieurs médias et associations, ces deux derniers mois, près d'une centaine de manifestants ont été gravement blessés, notamment par un usage excessif ou disproportionné du LBD-40, qui fait régulièrement la une de l'actualité, là, les flashballs, et des grenades de désencerclement. La pénalisation des manifestants sur la base exclusive du port d'équipements de protection qui peuvent effectivement masquer partiellement le visage est illégale au regard du droit international. Elle risque de mettre en danger la santé et la sécurité physique des manifestants et aura un caractère fortement dissuasif sur l'exercice du droit de manifester. Elle risque aussi de conduire à des interpellations arbitraires au regard de ce droit international. Depuis mai 2016 et les manifestations contre la loi travail, nous avons observé que la possession d'équipements de protection était de plus en plus systématiquement considérée par les autorités comme un élément tendant à prouver une intention délictuelle. Cela s'est traduit par des confiscations systématiques de ce matériel dans certaines manifestations. Ces observations de terrain avaient été confirmées par les autorités elles-mêmes. Depuis décembre 2018, donc depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, un nouveau cap a été franchi avec plusieurs centaines de personnes placées en garde à vue et certaines même déférées en comparution immédiate au seul motif d'avoir eu des équipements de protection. Au lieu de pénaliser le port d'équipements de protection, notre organisation demande aux autorités françaises de réviser leur doctrine en maintien de l'ordre et notamment le recours à des armes telles que les grenades de désencerclement ou l'utilisation des flashballs. Donc voilà, ça c'est les deux communiqués d'Amnesty. Et je répète, bon, même si effectivement c'est des redites par rapport à ce qu'on vient de dire, mais pour que les gens en aient bien conscience, qu'on assiste effectivement à une remise en cause des libertés fondamentales et que ces projets de loi sont non conformes au droit international. Ça pose question.
Ça fout les miquettes.
Ça fout les miquettes, effectivement. Voilà. C'est l'expression de Claire Lise. Bon, et pendant qu'on parlait de... Je termine là-dessus, et après je laisserai la parole à mes amis qui sont autour de moi. Mais pendant qu'on parlait des autorités françaises, ça m'a fait parler aussi, le temps que je récupère mon papier, ça m'a fait penser aussi au voyage de Monsieur le Président qui était en Égypte, là, ces jours-ci. Je crois qu'il rentre aujourd'hui, je sais pas, quelque chose comme ça, je crois.
Bah justement, oui. Je suis pleine de surprises... Finalement, j'ai quand même un petit bout culturel.
Oui.
Dans la chronique de décembre-janvier, on parle d'un premier roman qui se passe en Égypte.
D'accord.
D'où mon intervention.
Vas-y.
Très à propos, ma Firmina.
Voilà. De Robert Omar Hamilton, qui s'appelle « La ville gagne toujours ». En 2011, au Caire, les téléphones vibrent 24/24, les tweets se propagent à la vitesse de l'éclair, les photos envahissent les écrans portables. Il y a des arrestations, des morts. Mariam produit un programme sur Internet. Rania écrit les interviews. Khalil réalise les enregistrements et le montage. Les héros du roman d'Hamilton nous font vivre la révolution égyptienne en direct et du côté des civils. Ils diffusent des appels à manifester, soignent les blessés, soutiennent les familles endeuillées. Ils sont portés par l'espoir fou de voir leur génération faire basculer le destin du pays. L'écriture est serrée, pressée. Elle zappe d'un plan à un autre, d'un personnage à l'autre. Cinéaste Omar Robert Hamilton a lui-même participé à la création du média collectif Mozirine, documentant les manifestations en Égypte. Il plonge ainsi le lecteur dans le combat de ces jeunes Égyptiens qui, de la chute de Moubarak à l'élection des frères musulmans, vont assister au retour de l'armée au pouvoir et leur espoir s'effondrer. Ils signent un premier roman époustouflant. Voilà, La ville gagne toujours de Robert Omar Hamilton aux éditions Gallimard par rapport aux manifestations et à l'élection des frères musulmans.
D'accord. Bah écoute, merci Mina de cette introduction qui effectivement va dans le même sens de ce que je m'apprêtais à dire, donc c'est très bien. Et donc, notre président Emmanuel Macron a fait un voyage en Égypte. Bon, on vous a parlé pendant les émissions précédentes hein, qu'on avait une action là, qu'on a fait vis-à-vis des parlementaires pour demander des comptes par rapport à la vente d'armement en Égypte, parce que l'Égypte est un très gros client de la France concernant les armements, et que ces armements, d'après les éléments réunis par Amnesty, sont utilisés pour réprimer la société civile. Donc, ce qui ne devrait absolument pas être le cas, puisque la France a signé le traité sur le commerce des armes, qui interdit de vendre, pour un pays producteur, de vendre à un autre pays des armes qui peuvent être utilisées pour réprimer la population. Donc, la France s'assoit encore une fois sur sa signature, n'est-ce pas, monsieur Macron? Et donc, alors, je vais juste vous lire le communiqué qui est très court hein, d'Amnesty par rapport à cette visite, qui date du 25, donc c'est très récent. Bon, je ne sais pas à l'heure actuelle si M. Macron, parce qu'il s'était engagé à le faire, a parlé du non-respect des droits humains par le gouvernement Al-Sisi en Égypte, mais je doute fort qu'il ait été très vindicatif sur ce sujet-là. Donc, 8 ans après le début de la révolution en Égypte, le peuple égyptien fait face à une attaque sans précédent contre la liberté d'expression. Les voix critiques sont réduites à néant. Lors de la révolution du 25 janvier 2011, donc c'est ça dont Mina vient de vous parler, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander de meilleures protections pour les droits humains. Mais sous le régime du président Abdel Fattah al-Sisi, la place pour les critiques est réduite à néant. En 2018, les autorités égyptiennes ont arrêté au moins 113 personnes qui n'avaient fait qu'exprimer pacifiquement leur opinion. Beaucoup ont été détenus sans jugement pendant plusieurs mois avant d'être déférés. Ils ont été accusés d'appartenance à des organisations terroristes et diffusion de fausses nouvelles dans le cadre de procès iniques dont certains se sont déroulés devant des tribunaux militaires. Il est aujourd'hui plus dangereux que jamais dans l'histoire récente de l'Égypte de critiquer ouvertement le gouvernement. Sous la présidence d'Abdel Fattah al-Sisi, donc c'est à lui que M. Macron a rendu visite, les Égyptiens font face à une répression sans précédent où ceux qui expriment leur opinion sans violence sont traités comme des criminels. Au cours de l'année passée, des personnes qui avaient osé critiquer le gouvernement ont été arrêtées et envoyées en prison, bien souvent placées à l'isolement ou soumises à une disparition forcée pour avoir simplement exprimé leur opinion sur des réseaux sociaux, accordé des interviews à des médias, dénoncé le harcèlement sexuel ou même soutenu certaines équipes de football. Parfois, les personnes arrêtées n'avaient absolument rien fait. Depuis que le gouvernement Fattah al-Sisi est au pouvoir, l'Égypte est devenue une prison à ciel ouvert pour ses détracteurs. Donc voilà. Donc on ne sait pas ce que M. Macron aura fait comme remontrance à M. al-Sisi par rapport à l'absence de respect des droits humains dans son pays. Mais on rappelle aussi à M. Macron que ce serait bien effectivement que la France prenne des mesures pour arrêter de vendre des armes à ce type de régime. Voilà. Je crois que Claire Lise, mon petit doigt m'a dit que Claire Lise, elle avait une info locale à vous donner qu'on vous redira à la fin, mais comme c'est très très bientôt, on profite pour vous la donner deux fois.
Oui, donc il s'agit du samedi 2 février, une soirée qui va être organisée au Cube, donc par Amnesty International et en lien bien sûr avec toute l'équipe du Tamgram et du Cube. Donc il y aura d'abord une rencontre apéro, le club assis, et donc à partir de 19h il y aura un débat en fait sur l'esclavage, on en parle. Donc Katia Roux, qui est chargée du plaidoyer programme Liberté Amnesty International France, vous propose un débat en public et en présence du groupe Delgré. Donc Delgré, on vous fait écouter depuis quelques semaines quelques morceaux de leur album.
Voilà. Et ce soir encore, ce seront eux qui feront les pauses musicales.
Donc, et ce débat donc en public sur la thématique de l'esclavage et de la décolonisation. Négation absolue de la dignité humaine, la pratique de l'esclavage, dont l'interdiction officielle à la suite de longs combats pour les droits humains s'est peu à peu généralisée, a profondément marqué les structures de nos sociétés. Pourtant, nombre de préjugés,
de discrimination et d'injustice en sont encore aujourd'hui les héritiers. Et puis quand on parle d'esclavage, je ne sais pas si on aura l'occasion, parce que le débat là, il n'est pas encore ouvert, mais il y a encore des pays qui pratiquent l'esclavage. Et quand on parle des migrants et des gens qui fuient l'Afrique, qui essayent de venir, de passer en Europe pour venir demander asile, ils passent par certains pays où ils se retrouvent esclaves, et notamment en Libye.
C'est aussi effectivement pour ça qu'on en parle à ce débat, c'est sûr. Même si l'esclavage a été officiellement interdit dans l'intégralité des pays à l'heure actuelle, dans les faits, il existe toujours dans beaucoup de pays.
Ouais, en Mauritanie aussi, entre autres. Donc, cette soirée, il y a le débat dans une première partie. Et ensuite, le Cube vous invite à un concert à partir de 20h. Donc, le Cube ouvre ses portes à 20h pour le concert du groupe Delgré, donc Blues Créole Rock. Et donc, on poursuit la soirée avec cette fois-ci le Power Trio Delgré et son message hommage séculaire à Louis Delgré, héros de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe. Donc je vais pas lire tout.
C'est le texte du Tangram, c'est eux qui l'ont fait.
Ça. Oui, voilà.
Non, mais c'est pas grave. Mais c'est un petit commentaire sur la musique que fait le groupe. Je pense que le plus parlant, c'est de venir voir le groupe
c'est
en
une
concert.
Musique. Voilà, j'aime bien la fin. C'est une musique rebelle et brûlante qui nous parle autant d'aujourd'hui en faisant vibrer nos corps et nos esprits.
Voilà, ouais, c'est très bien. Ouais. Et justement, ça tombe bien parce que là, on va vous faire écouter un petit morceau de Delgré que Vincent va nous mettre tout de suite.
Yeah.
Voilà, de retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, c'était le groupe Delgrès, un morceau qui s'appelle Monsieur Président. Ça tombe bien parce qu'on parlait de Monsieur Macron il n'y a pas longtemps. Voilà, donc maintenant c'est Mina qui doit vous parler, si mon petit doigt ne m'a pas trahi non plus.
On va aller dans le Russie. Pays de Monsieur Poutine. Alors, en Russie, un nouveau palier dans la répression des ONG. Le 21 janvier, une enquête pénale a été ouverte contre la défenseuse des droits humains, Anastasia Shevchenko. Pour la première fois, les autorités russes utilisent la loi répressive, décidément, sur les organisations indésirables, pour engager une procédure pénale. Ce 21 janvier, des policiers ont fait une descente au domicile de 6 militants de l'organisation Open Russia à Rostov-sur-le-Don, sud de la Russie, et à Kazan, centre du pays. Anastasia Shevchenko, coordinatrice du mouvement, a été inculpée de participation répétée aux activités d'une organisation indésirable. Elle encourt 6 ans d'emprisonnement. C'est la première fois qu'une procédure pénale est engagée en vertu de l'article 284.1 du Code pénal qui dispose que toute violation répétée de la loi sur les organisations indésirables constitue une infraction pénale. Jusqu'à présent, les infractions à cette loi étaient sanctionnées par le droit administratif. Comment étouffer les voix dissidentes ? Si elle se généralise, cette pratique aura de graves conséquences sur le droit à la liberté d'expression en Russie. Car les autorités renforcent leur arsenal pour emprisonner les défenseurs des droits humains et les militants. La loi sur les organisations indésirables, promulguée en mai 2015, permet aux autorités russes d'interdire toute ONG étrangère qui serait reconnue indésirable. Donc en Russie, c'est cette loi-là, c'est pas l'état d'urgence. Ça change. Oui. Elle s'inscrit dans la suite d'une autre loi similaire, celle de 2012 sur les agents de l'étranger. Voilà. Et aussi, en parlant de répression, en Tchétchénie, recommencent les violences faites aux homosexuels. Et je vous invite à aller sur le site, signer la pétition Tchétchénie, stop aux violences homophobes.
Oui, parce que la répression contre les homosexuels en Tchétchénie a repris de plus belle. Et il y avait déjà eu une campagne il y a 2 ans, quelque chose comme ça, je crois. Et ça a repris de plus belle. Et Amnesty pense qu'il y a déjà au moins 2 personnes qui seraient mortes suite à la reprise de cette répression. Donc effectivement, c'est une répression particulièrement sanglante. Et ce sont des gens qui n'auront pas d'autre choix si les autorités ne se calment pas, pour parler gentiment, qui n'auront pas d'autre choix que d'émigrer pour chercher refuge. Et puis après, on posera la question, pourquoi les gens, ils cherchent à émigrer, pourquoi ils viennent chez nous, pour parler simplement? Oui, bien sûr, mais il faut peut-être se poser les bonnes questions, savoir effectivement pourquoi ils ne peuvent pas rester chez eux. Donc la véritable question, c'est celle-là. Donc on ne peut que vous encourager à lutter contre cette reprise de la violence anti-homophobe en Tchétchénie. La Tchétchénie est une république de la Russie, j'allais dire de l'Union soviétique, non, c'est fini ça, de la Russie. Et donc, allez signer cette pétition, et puis on continuera à faire des commentaires sur le régime de notre ami Poutine. C'est ce que je disais à Sabine quand elle venait aux émissions. Notre ami Poutine, ça avait le don d'énerver Sabine, parce qu'elle disait « c'est pas notre ami ». Ben, je sais bien que c'est pas notre ami. Voilà. Puisqu'on parlait de gens qui allaient chercher refuge... donc probablement, mais malheureusement les LGBT tchétchènes qui vont avoir besoin de chercher refuge ailleurs dans les mois qui viennent. Nous, on va vous parler, je vais vous dire quelques mots d'une personne qui est en situation de réfugié en France, ou moi qui a fait une demande de réfugié. Il s'appelle Sayed, il a 19 ans. Il est en France, il est passé par la Bulgarie, il nous vient d'Afghanistan. En Afghanistan, il risque d'être exécuté par les talibans, puisqu'il a reçu des menaces de mort. Donc on ne va pas vous refaire l'historique de l'Afghanistan des talibans, hein, vous les avez forcément entendu parler. Et cette jeune personne est actuellement dans un centre de rétention en région parisienne, et il est menacé de retour forcé en Bulgarie dans un premier temps, puisqu'il est arrivé en Europe par la Bulgarie, sachant que la Bulgarie refoule les réfugiés afghans en Afghanistan très facilement. Je rappelle qu'une partie de l'Afghanistan est considérée, y compris par les autorités françaises à l'heure actuelle, comme un pays sûr. pas de commentaire. Voilà, si c'est le cas pour Saïed, eh ben, il risque sa vie s'il est expulsé là-bas. Donc Amnesty a fait une action. Bon, dans un premier temps, on a fait une action par Twitter, mais là elle est finie auprès de M. Castaner, ministre de l'Intérieur, pour demander à ce que cette mesure d'expulsion soit annulée. Pour l'instant, donc, on a reçu un communiqué aujourd'hui comme quoi le ministère de l'Intérieur, pour l'instant, n'avait formulé aucune réponse à la mobilisation d'Amnesty International et que normalement, son vol d'expulsion vers la Bulgarie est prévu pour demain. Donc Saïed risque fort d'être expulsé vers l'Afghanistan et il risque fort de disparaître définitivement dans les semaines qui viennent, si c'est le cas. Voilà, donc allez quand même sur le site d'Amnesty, même si l'action Twitter pour l'instant elle est terminée, parce que vous avez là aussi toujours la pétition à signer vis-à-vis des autorités françaises, non à l'expulsion de ressortissants afghans qui sont actuellement en France. Effectivement, il est absolument inadmissible que l'Afghanistan, ou du moins qu'une partie de l'Afghanistan, soit considérée comme un pays sûr. Voilà, et ça nous fait une entrée en matière aussi par rapport à ce que vous voulez vous dire, Pierre-Lise, qui bien sûr, elle est très engagée, comme vous le savez, au niveau de la défense des réfugiés et des migrants ici à Évreux, et je pense qu'elle a des choses à vous dire.
Oui, donc la semaine dernière, je vous avais parlé un petit peu de la situation auquel nous étions confrontés, les associations d'aide aux migrants. Il n'y a pas que le CFED d'Assis d'Évreux, il y a RESF, il y a la Ligue des droits de l'homme, je pense que les gens de la CIMAD sur Louviers sont confrontés exactement aux mêmes choses, sur Louviers et Rouen. Et je vous disais aussi qu'on était confrontés à de plus en plus, il y a tout ce qui se passe autour de la loi Asile, et par rapport aux demandeurs d'asile, la façon dont ils sont systématiquement, pour certains, « dublinés », entre guillemets, c'est-à-dire que s'ils sont passés par un autre pays d'Europe et qu'ils y ont laissé leurs empreintes, ou s'ils ont obtenu des visas de consulat ou d'ambassade étrangère, croyant pouvoir arriver en Europe plus facilement parce que l'ambassade de France ne distribue jamais de visa pour venir en France, eh ben, ils se font piéger et ils se retrouvent en demandeur d'asile dubliné, c'est-à-dire que leur demande d'asile n'est pas examinée en France, mais qu'on cherche par tous les moyens à les refouler, soit vers l'Italie, soit vers l'Espagne, soit vers le Portugal, soit vers d'autres pays improbables, mais qui font partie de l'Union européenne. Et ce n'est pas leur choix. Donc, il y a une manifestation qui va avoir lieu, qui est une manifestation régionale. Donc, je vais vous lire simplement le communiqué, l'appel à manifester, si vous êtes intéressé. Le CFED Assis d'Évreux soutient l'appel à la manifestation contre la nouvelle loi Asile-Immigration. Un être humain égale un être humain. Manifestons contre la nouvelle loi Asile-Immigration. Alors, cette manifestation, c'est à l'appel de la coordination régionale Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Alors, au départ, c'est l'Assemblée de Caen des États généraux des migrations qui est composée de l'AG de lutte contre toutes les expulsions, de l'ASTI du Calvados, d'une association qui s'appelle la CAMO, du CCFD Terre Solidaire, du CITIM, de Démosthène, d'Emmaüs Calvados, d'Itinérance Sud-Manche, de la CIMAD, de la Ligue des droits de l'homme, des Médecins du Monde, de Terre des Hommes. Tout ça, ce sont des associations qui sont effectivement plutôt dans le département du Calvados et près de Caen, mais aussi s'associent à cette coordination l'association d'Élie Solidaire, l'ACETI et le CFED Assis d'Évreux. Donc, solidaires des personnes immigrées, soyons nombreux à soutenir les immigrés qui sont maltraités par notre gouvernement, pris pour responsable de la crise économique européenne. Donc cette manifestation aura lieu le samedi 2 février 2019, à 14h, place Saint-Pierre à Caen. Un être humain égale un être humain, manifestons pour la nouvelle loi Asile-Immigration, donc exilé au pluriel, au féminin et au masculin, demandeurs et demandeuses d'asile, dublinés, et eux, mineurs, sans papiers, étrangers, immigrés, français, tous et toutes ensemble pour l'application des articles 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Voilà, ça c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme, les articles 13 et 14. Donc la nouvelle loi asile-immigration, dite loi Colomb, a été publiée au Journal officiel le 10 septembre 2018. C'est une nouvelle régression pour les droits des personnes étrangères en général et des personnes exilées en particulier. Donc si vous avez du temps, samedi, alors on a un programme chargé pour vous. Hein. Donc vous pouvez partir en fin de matinée pour Caen, il faut à peu près 2 heures de route, participer à la manif,
et revenir
sur Évreux pour être à 19h à notre débat contre l'esclavage et puis ensuite finir la soirée avec auprès du groupe Delgré. C'était important cet appel à manifester et je voulais vous dire aussi que sur Évreux, bah, on est toujours confronté aux mêmes situations, c'est-à-dire énormément d'OQTF et de refus de renouvellement de titre de séjour pour des gens qui étaient en France depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui d'un seul coup n'ont plus le droit de renouveler leur titre de séjour. Il y a vraiment des durcissements. Alors, ils s'appuient sur la nouvelle loi asile-immigration, mais il y a aussi, enfin, vraiment une volonté de marginaliser ces personnes, parce qu'avec le renfort de la nouvelle loi, c'est-à-dire qu'une fois ils ont une OQTF, une fois qu'il y a un rejet d'asile, quand ils avaient, par exemple, leur droit pour l'aide médicale d'État, il faut savoir qu'au bout de quelques mois, ces cartes ne seront plus renouvelées et que les droits à la santé pour ces personnes ne seront plus renouvelés. Que le droit au logement, sur décision de la direction départementale de la cohésion sociale, ces droits seront aussi bloqués. C'est-à-dire qu'on les marginalise, on les empêche de travailler parce qu'on ne renouvelle pas leurs papiers et leurs droits au travail. Ils perdent leur logement, ils perdent leur droit à la santé et un être humain égale un être humain. Enfin, manifestez votre soutien pour eux, parce que ce qui est en train de se passer, c'est absolument scandaleux. Et je vais vous lire la réaction d'une militante sur... Enfin, une militante. Quelqu'un qui est bien connu au niveau d'Évreux et qui, cette semaine, nous a envoyé un petit courrier qui partira pas vers la préfecture. Mais il était extrêmement bien rédigé par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière, justement, sur les titres de séjour santé qui n'étaient pas renouvelés. Oui, donc, c'est un texte d'Hélène.
Juste pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, je reprécise ce que tu disais. OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire français, parce que tout le monde ne connaît pas le sigle.
Mais depuis le temps qu'ils m'écoutent, va finir par rentrer.
Oui, mais il y a peut-être des nouveaux aussi qui nous écoutent ce soir.
Oui, donc le petit texte d'Hélène, hein, qui fait partie du CFEDES qui d'Évreux, mais aussi de la Ligue des droits de l'homme, c'est un cri de révolte et de colère, sinon de désespoir. Le temps où la démocratie française essayait plus ou moins bien d'appliquer sa belle devise « liberté, égalité, fraternité » est révolu. Lorsque les migrants arrivent en France, au risque de leur vie, échappant aux dangers du voyage, à l'esclavage et aux assassinats en Libye ou en d'autres pays, au naufrage en Méditerranée, ils espèrent être sauvés. Mais c'est le parcours du combattant qu'ils doivent assurer pour essayer d'être régularisés, alors qu'ils demeurent très traumatisés par les épreuves endurées. Obtenir le statut de réfugié, c'est un examen extrêmement difficile, dépendant de l'attitude du juge ou du jury auprès duquel on plaide sa cause. Bientôt, on plaidera devant des écrans. Encore mieux. Jusqu'au début 2017, le Collège des médecins des agences régionales de santé comprenait que ces personnes avaient absolument besoin de soins médicaux, psychiatriques, français, pour retrouver un équilibre. Et ils donnaient un avis favorable à leur titre de séjour. Ces personnes obtenaient une carte de séjour pour raison médicale, dans la mesure où les préfets appliquaient les décisions qui avaient été prises par ces médecins. Cela leur permettait de s'intégrer dans la société française, d'y travailler grâce à un équilibre fragile dû au traitement prescrit par leur médecin et de pouvoir y vivre. Mais ces temps sont terminés, puisque c'est le Collège des médecins de l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration, qui décide du sort des demandeurs de titres de séjour santé. Les dossiers sont presque tous rejetés. Les personnes perdent tous leurs droits en particulier celui de travailler, et ne disposent plus d'aucune ressource. Ils ne peuvent plus payer leur loyer et tombent dans le désespoir. Et après, elle nous décrit la situation d'un monsieur qui était, dont la fragilité était connue, pour qui il y avait eu un recours gracieux et un recours contentieux qui avaient été présentés auprès de monsieur le préfet de l'Eure, monsieur Thierry Coudert. Le certificat médical psychiatrique du médecin lançait l'alarme. Une lettre de soutien au recours rappelait qu'on ne pouvait jouer avec la santé mentale de ce monsieur. Et le jugement du tribunal administratif de Rouen avait ordonné au préfet de réexaminer sa situation. Voilà. Ce monsieur a sans doute pressenti la réaction du préfet, mais il a sombré dans ce qu'on appelle une très grosse dépression. Enfin, il a décompensé et il est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique où il tourne en rond et où il perd la raison. Et pendant ce temps, sa femme a reçu deux jolis courriers du préfet l'invitant à passer un mercredi après-midi à la préfecture, muni des passeports. Alors, quand on reçoit ce type de courrier d'invitation pour un mercredi après-midi, maintenant, on sait ce que c'est. Ça veut dire une obligation à quitter le territoire français. Voilà. Et c'est désespérant parce qu'ils sont des dizaines à avoir ce type de courrier et pour qui on rejette le droit au séjour avec des critères qui sont loin d'être des critères de droits humains.
Oui. En général, c'est même pour tout à fait d'autres motifs. Effectivement. Ok, bah écoute, merci Claire-Lise de ce. Je te sens un peu énervée tout d'un coup, non?
Oh, mais. Lasse, fatiguée. Oui, ça, je suis énervée, fatiguée. Mais bon, en fait, c'est important d'en parler. Oui. Et je voulais dire aussi, parce que je disais qu'il y avait beaucoup de personnes confrontées aussi aux difficultés de logement, que la dernière fois, il y a 15 jours, pendant l'émission, il y a quelqu'un qui a appelé Principe Actif, oui. Et qui a donné son numéro de téléphone, donc je remercie cette personne. Je ne l'ai pas appelée personnellement parce que dans la vie de tous les jours, je travaille beaucoup, mais j'ai transféré son appel et son message auprès de l'association Un Toit Sous la Main, qui est une association qui fait partie du collectif par rapport à l'aide aux migrants et l'état généraux des migrations sur Évreux, qui, entre autres, est représenté par Vincent Breuil. Et donc, j'ai transféré l'appel de ce monsieur avec sa proposition d'hébergement éventuel auprès de l'association Un Toit Sous la Main. Je le remercie beaucoup d'avoir appelé. Voilà. Et, parce que oui. Je donne des nouvelles locales, vas-y. L'association Un Toit Sous la Main,
oui, c'est vrai,
tiendra, parce que c'est pour les problèmes de logement, justement, tiendra son assemblée générale le 5 février dans les locaux que nous partageons avec RESF et Amnesty International. Donc le 5 février à 18h, il y aura l'assemblée générale de l'association Un Toit Sous la Main. Et si vous êtes aussi intéressé pour participer à l'action de cette association, aux problèmes d'hébergement et au soutien que vous pouvez apporter, soit matériellement, soit financièrement, soit moralement, ils ont besoin d'aide, et ben vous pouvez venir à l'Assemblée Générale.
Merci. Voilà. Juste avant la deuxième pause musicale, une bonne nouvelle, parce que bon, là, on vous a parlé de régression des droits en France, de situation des migrants, de régression des droits en Russie, etc. etc. Une bonne nouvelle, parce qu'on en a quand même, Asia Bibi, dont vous devez avoir entendu le nom aussi dans les différents médias, qui est une ouvrière agricole chrétienne pakistanaise, qui avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010, sera définitivement libérée, on l'a appris aujourd'hui. Donc, pour résumer son histoire, fin octobre 2018, la Cour suprême du Pakistan l'avait acquittée de cette condamnation à mort pour blasphème et de toutes les charges retenues contre elle et avait ordonné sa libération immédiate. Mais bien qu'il ait ordonné sa libération immédiate, Asia Bibi n'a pas été libérée parce qu'en raison des pressions d'une partie de la population et notamment de menaces de violence et de troubles et de menaces de mort, le gouvernement a fait marche arrière et a accepté d'interdire à Asia Bibi de quitter le pays jusqu'à ce que la Cour suprême examine une requête en révision dans le cadre de son affaire. Donc, en gros, la Cour suprême l'avait acquitté, mais le tribunal a accepté de recevoir une nouvelle requête faite par on ne sait pas très bien qui. Depuis, elle était maintenue en détention pour assurer sa protection. Voilà, le Pakistan avait inventé la libération de quelqu'un qui était toujours emprisonné. En gros, c'était ça. Et donc, la Cour suprême du Pakistan a définitivement rejeté la requête hier et donc a prononcé, a ordonné la libération immédiate d'Asia Bibi, qui devrait donc quitter très très prochainement le Pakistan, parce que si elle reste chez elle, enfin au Pakistan, dans son pays, elle risque effectivement d'être tuée assez rapidement. Et elle devrait, d'après les informations qu'on a, obtenir un statut de réfugié au Canada. Petit commentaire par rapport aux autorités françaises. Amnesty avait demandé, avait dit aux autorités françaises que lorsqu'elle serait définitivement libérée, ce serait bien que la France lui propose un statut de réfugié. Il n'y a pas eu de réponse de l'État français. Mais enfin, bon, apparemment, le Canada a accepté de la recevoir, donc elle devrait pouvoir émigrer au Canada. Donc Asia Bibi va être définitivement libérée et elle n'aurait jamais dû être arrêtée ni condamnée. Voilà, donc on fait une deuxième pause musicale.
Oui, on va écouter quoi?
Delgrèze.
Come on.
Revoilà.
Nous voilà de retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International Évreux. On vient d'écouter à nouveau Delgrès. Donc, emmenez-moi, c'est ça. Hein, là, j'interroge notre technicienne parce que j'étais plus sûr du titre. On va terminer. Enfin, c'est la dernière partie de l'émission, de notre deuxième émission mensuelle du mois de janvier. Et puis, comme on vous a parlé beaucoup de choses qui n'allaient pas bien, on va quand même vous donner une deuxième bonne nouvelle après la libération d'Asia Bibi. Donc, c'est la libération de quelqu'un qui était enfermé, d'un Syrien qui s'appelle Ahmed H, qui était enfermé depuis plus de 3 ans en Hongrie. Alors, voilà son histoire. En 2015, le Syrien Ahmed H a été incarcéré à tort pour complicité d'actes terroristes lors d'affrontements avec les gardes frontières avec des gardes frontières à la frontière serbo-hongroise. On sait bien que la situation en Hongrie, c'est tout sauf que sympa pour les gens qui font des demandes de séjour et qui sont réfugiés. Après 3 ans et demi derrière les barreaux, il va enfin pouvoir retrouver son épouse et ses filles à leur domicile à Chypre. Condamné initialement à une peine de 10 ans de prison, réduite ensuite à 7 puis 5 ans, Ahmed sera libéré le 19 janvier. Il a été libéré le 19 janvier, puisque le communiqué date du 18. Sa libération est un immense soulagement pour sa famille, même s'il n'aurait jamais dû être poursuivi, et encore moins condamné pour une telle infraction. Alors, son histoire, c'est la suivante. En août 2015, Ahmed a quitté son foyer à Chypre pour aller aider ses parents âgés et 6 autres membres de sa famille à fuir la Syrie et à trouver refuge en Europe. Un mois plus tard, ils se sont trouvés parmi les centaines de réfugiés bloqués à la frontière serbo-hongroise après sa fermeture par la police. Des heurts ont éclaté lorsque des réfugiés ont tenté de passer. La police hongroise a réagi en utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau, blessant des dizaines de personnes. Certaines ont jeté des pierres, dont Ahmed. Toutefois, les séquences filmées par les médias montrent également Ahmed utilisant un mégaphone pour demander aux réfugiés et aux policiers de garder leur calme avant les affrontements. Pour ces motifs, un tribunal hongrois l'a déclaré coupable de complicité d'actes terroristes au titre de la législation hongroise relative à la lutte contre le terrorisme, au terme extrêmement vague. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Cette peine a été réduite par la suite, puis jusqu'à 5 ans, avec possibilité de demander une libération anticipée. Voilà. Donc Ahmed a pu effectivement repartir chez lui à Chypre. Mais encore une fois, Amnesty dit qu'il n'aurait jamais dû être arrêté ni incarcéré. Voilà. On a des infos locales. On va vous redire notre soirée du samedi, février. Donc c'est Claire Lys qui va vous en reparler. Et après, moi, je vais vous parler radio. Ça fait bizarre de parler radio alors qu'on est à la radio.
Oui, donc c'est une soirée qui est proposée par Amnesty International Évreux. Donc il y a une rencontre après apéro au club au cube, donc ça va s'appeler le club assis, et donc c'est sur le thème de l'esclavage, on en parle. Donc c'est la thématique de l'esclavage et de la décolonisation, et on vous invite à venir. Alors ça va être en général, j'aime bien moi le cube, c'est assez chaleureux. Oui. Quand on y fait des échanges comme ça, on peut bouger, on n'est pas obligé d'être assis, c'est pas complètement formel, et je trouve que c'est très convivial les échanges qu'on peut y avoir.
D'ailleurs, c'est d'autant plus convivial qu'il y a un pot qui sera offert.
Oui, bien sûr.
Et que pour la conférence, l'entrée est gratuite.
À 19h, voilà. C'est ça ?
C'est à 19h la conférence.
C'est à partir de 19h la conférence. Et ensuite, il y aura le concert de Delgré, qui est un concert debout, donc là, dans la grande salle du Cube. Et là, par contre, c'est un concert où il faut payer sa place.
Oui,
bien sûr. C'est la suite de la soirée. Mais les membres du groupe participeront
à la conférence
débat.
C'est ça.
Voilà, donc n'oubliez pas, c'est après la manif à Caen.
Vous revenez, vous avez juste le temps de faire les deux heures de route.
Et vous arrivez à 19h pour la conférence débat. Voilà.
Et puis, donc, je vous avais dit qu'on allait parler radio à la radio. Donc, c'est pour vous parler effectivement d'une autre série d'émissions qu'on fait, indépendamment de nos émissions bimensuelles, qui s'appelle Fréquence Droits Humains. Je fais un clin d'œil encore à Vincent, puisque Vincent, qui nous fait la technique ce soir, est aussi très investi dans les émissions Fréquences Droits Humains. Alors, ce sont des émissions qui ont lieu une fois par mois, en direct aussi sur l'antenne de Principe Actif. Vous pouvez retrouver les podcasts des émissions précédentes sur le site de la radio, à la rubrique Fréquences Droits Humains. Et donc, ce sont des émissions qui sont faites toutes hors studio. et qui parle aussi de droits humains, mais sur des thèmes qui sont un peu différents de nos thèmes de nos émissions d'information amnistienne, si on peut dire.
C'est ça. Et la semaine dernière,
c'était travail, sur et travail et dignité humaine.
L'amicale de Navarre.
C'était l'amicale de Navarre. Le but, c'est de donner envie aux gens qui se préoccupent, qui ne se posent pas trop de questions par rapport au respect de leurs propres droits, de s'en poser et de vouloir et de les inciter un peu à se prendre en charge pour les revendiquer. Donc c'était sur le thème de dignité et droits humains. On avait, tu m'arrêteras Vincent, hein, parce que tu étais là, si je me trompe. On avait donc Monsieur Vidal, qui est contrôleur du travail et qui est aussi militant artisan du monde, qui nous a parlé de la législation française et le respect des droits humains dans le cadre du travail. On avait Olivier Dubois, qui est ergologue, c'est ça, hein, le Vincent.
Oui, c'est ça, ergologue.
Alors c'est une. Moi, je connaissais pas du tout sa spécialité, mais en fait, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le respect des personnes et le bien-être au travail sur un plan très général. Voilà. Donc, en quoi le travail peut être ou non respecter le bien-être des gens dans le cadre de leurs activités et les questions que ça pose. C'est un sujet très général, mais c'était assez intéressant ce qu'il a raconté, même très intéressant. Et on a eu l'intervention aussi de Vincent Breuil, qui était déjà venu dans une autre émission, mais là qui est venu en tant, non pas de militant des droits humains, parce qu'on connaît bien Vincent, mais là en tant qu'instituteur, et qui nous a parlé de dignité au travail et de sa démarche qu'il faisait pour essayer d'apprendre aux élèves qu'il a à devenir des citoyens dignes. Voilà. Et il expliquait effectivement les problèmes que ça pose dans le cadre de l'éducation nationale, parce que là non plus, les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter cette émission, Fréquence Droits Humains. Donc ça, c'était la dernière, celle du mois de janvier. Et la prochaine, c'est le 22, c'est ça, hein, le
22 février. Ça sera délocalisé à Bretagne.
C'est ça, à l'association Le Parc, hein, c'est ça.
Exactement.
Qui va nous recevoir. Et le thème sera, alors je pense qu'on est les premiers à faire un thème comme ça. Le thème, ce sera Droits Humains et Agriculture. C'est pour ça qu'on va à Bretagne, parce que c'est un lieu effectivement plus rural. Il y a Clarisse qui rigole, mais c'est un lieu plus rural, effectivement.
C'est pas gentil de dire ça comme
pas
ça.
Pas du tout. Pas
bon,
du
allez,
tout.
Continue.
Il n'y a absolument rien de péjoratif là-dedans.
Et notre prochaine émission, ce sera le 12 février à 19h pendant les vacances scolaires. On vous attend nombreux samedi à Caen et à Évreux, au Cube. Et on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.
Et redonne-nous tes voeux. Redonne-nous tes voeux.
On laisse la place au laboratoire et à Manu qui vient d'arriver.
Faut écouter le podcast pour avoir mes voeux.
Ouais.
Il faut écouter le podcast pour avoir les vœux. Oui. On vous rappelle que les podcasts sont en ligne aussi sur le site du Principe Actif.
Pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.